Bonsoir à tous. L'instruction en famille sérieusement remise en cause par la loi contre le séparatisme. Pour ne pas avoir respecté les nouvelles dispositions, une famille nord-sévrienne est convoquée devant la justice demain. Les agriculteurs souhaitant déployer un plan de gestion durable des haies bocagères sont invités à contractualiser avec l'agglomération du bocage bressuré. Partir en vacances lorsque l'on est en situation de handicap peut s'avérer coûteux. Des aides existent et elles seront mises en avant lors d'un forum ce samedi à Saint-Porchaire-Bressuire. À nouveau, ciné-débat au fauteuil rouge demain soir. Il s'appuiera sur le film de Gilles Perret et François Ruffin, Au boulot. L'église de Rignatoire a bénéficié d'un généreux donateur pour des travaux qui seront présentés ce samedi au public.
À la météo, à l'issue du journal, domination des nuages encore demain.
Je vous rappelle que la Nationale 149 sera une nouvelle fois fermée à la circulation à partir de 20h ce soir dans le cadre de la pose de la passerelle destinée à assurer un linéaire complet de la voie verte entre Bressuire, Voulementin et Neuilly-les-Aubiers. Le trafic sera rétabli en milieu de nuit. Quant à la passerelle, elle ouvrira officiellement au public, piétons et cyclistes, le vendredi 20 décembre.
L'instruction en famille est sérieusement remise en cause par la loi contre le séparatisme.
Il y a un certain nombre de parents qui font le choix de ne pas mettre leur enfant à l'école et d'assumer eux-mêmes leur instruction. Une famille vivant à Voulementin est convoquée au tribunal judiciaire de Niort demain après-midi pour avoir poursuivi l'instruction en famille pour ses 4 enfants sans respecter les nouvelles dispositions prévues par la loi de 2021. Gisèle Roudex est membre du collectif IEF des familles de l'Académie de Poitiers.
On est passé d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation. C'est-à-dire qu'avant cette loi, chaque parent qui décidait d'instruire son enfant en famille devait se rendre auprès de la mairie et se signaler auprès de l'éducation nationale comme étant en charge de l'instruction de son enfant. Et évidemment, à partir de cela, des contrôles avaient lieu une fois par an de la part de l'éducation nationale et de la part de la mairie. Désormais, les parents doivent demander l'autorisation par écrit à l'éducation nationale en se conformant à des motifs bien précis, en fournissant un dossier pédagogique, et l'éducation nationale, à la lecture seule du document écrit fourni par la famille, décide si oui ou non elle autorise la famille à faire l'instruction en famille. Si on regarde cette loi comme beaucoup d'autres, elle est parfaite. Normalement, elle a été faite, soi-disant, pour nous protéger, pour protéger tout le monde du séparatisme. Donc tout le monde est d'accord pour avoir un enseignement conforme aux valeurs de la République, respecter certains principes, enseigner en langue française. Seulement dans la réalité, il y a un flou juridique qui est utilisé par l'administration pour interdire l'instruction en famille.
Cette année, une cinquantaine de familles ont attaqué les décisions du rectorat auprès du tribunal administratif. L'académie ayant débouté les demandes pour le motif suivant, pas de situation propre, qui ne veut rien dire selon les familles, qui voient surtout un obstacle à leur volonté. L'une de ces familles se retrouve donc devant le tribunal pour avoir refusé de se soumettre à cette loi jugée liberticide. L'instruction en famille génère pas mal de défiance. Le collectif défend pourtant une certaine pluralité dans leur profil, même si c'est difficile de savoir combien elles sont exactement.
Le problème avec les chiffres, c'est que l'État refuse de nous les donner, que ce soit au niveau du rectorat comme au niveau national, malgré les saisies par les associations nationales. L'État, c'est de la rétention d'informations. Donc je pourrais difficilement vous les avancer puisque l'État refuse de nous les donner. Moi, de ce que je sais à ma petite échelle, il y a au moins une bonne centaine de familles qui ont fait des demandes sur le Poitou-Charentes cet été. Et ce qui est, moi, j'attire vraiment l'attention des auditeurs sur le fait que, contrairement à ce qu'on peut entendre, l'instruction en famille regroupe des familles tout aussi diverses qu'à l'école publique ou en école privée. Vous avez vraiment des niveaux sociaux très différents. Vous avez des professions très différentes et les familles en elles-mêmes ne se ressemblent pas. Vous avez vraiment une diversité pédagogique, intellectuelle, aussi variée qu'en école publique.
Le collectif de l'instruction en famille dans l'Académie de Poitiers donne rendez-vous à 10h demain jeudi auprès Le Roi à Niort, avant l'audience prévue à partir de 13h30 au tribunal judiciaire. Reportage signé Fabien Gazot. Un amendement de la députée de Sévrienne Delphine Bateau pour l'interdiction du démarchage téléphonique a été voté ce mercredi par la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen d'une proposition de loi sur la lutte contre la fraude. L'interdiction du démarchage téléphonique commercial avait également été votée à l'unanimité au Sénat le 14 novembre dernier. L'Assemblée nationale se prononcera lundi prochain. Pour la députée de Sévrienne, je cite, les appels incessants, extrêmement intrusifs, perturbent la tranquillité à laquelle chacun l'État de droit et constitue une véritable invasion de la société de consommation dans la vie privée. Il est temps d'y mettre fin. Fin de citation. L'entreprise toircaise Asselin, spécialisée dans la restauration de monuments historiques, a participé à la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris, détruite dans l'incendie de la cathédrale en avril 2019. Une équipe de salariés de la société a travaillé pendant 18 mois sur la fabrication des décors en chêne des niveaux ajournés de la flèche de Notre-Dame. À l'occasion de sa dernière visite de chantier de la cathédrale, ce vendredi, le président de la République remerciera tous les compagnons, mécènes et contributeurs au chantier ayant rendu possible ce défi de reconstruction en 5 ans. Les entreprises artisanales impliquées, dont Asselin, donc à Thouars, recevront à la fin de la visite le diplôme Notre-Dame qui atteste de leur engagement professionnel et de la grande qualité de leurs compétences.
Partir en vacances lorsqu'on est porteur d'un handicap n'est pas si simple et peut s'avérer coûteux.
Des aides existent pourtant, mais elles sont encore trop souvent méconnues. Fort du succès de la première édition du forum pour des vacances adaptées organisées l'an passé, l'ADAPI et la MSA le reconduisent ce samedi 30 novembre avec cette même volonté d'informer sur les aides possibles pour pouvoir partir, que l'on soit adulte ou enfant. Précision avec Cécile Pernet, éducatrice à l'ESAT de Bressuire, au micro Colline de Jacqueline Pinon.
Nous avons engagé un forum l'année dernière pour expliquer un petit peu pourquoi depuis 2021 nous étions sur ce chantier de projet d'aide aux vacances. Ça n'a pas été démarré n'importe comment. Nous avons fait un partenariat important avec la MSA qui nous a soutenu énormément sur cet accompagnement puisqu'elle a commencé par sonder les travailleurs ESAT des espaces verts. Et puis, bon an mal an, on s'est dit mais il n'y a pas que les salariés de la MSA qui ne partent pas en vacances, il y a aussi les autres qui sont pas du dispositif de la MSA. Et de fait, on a réalisé une enquête auprès de tous les ouvriers des ESAT. Ils étaient 169 à l'époque, aujourd'hui ils sont 175. Et donc, il s'est avéré que 40% d'entre eux ne partent pas en vacances. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi ? On est bien sur un dispositif d'aide aux vacances, mais pour aider, il n'y a pas que la partie financière, il y a aussi la partie projet. Et pour réaliser un projet, eh bien, il faut commencer à réfléchir, il faut en parler, et il faut savoir par quel bout on prend ce projet. Et souvent, les personnes sont démunies et ont besoin un peu de soutien. C'est comme ça qu'on a réalisé aussi des groupes de parole autour de la création de projets vacances.
L'an dernier, 12 salariés porteurs d'un handicap avaient pu bénéficier d'une aide financière pour leur séjour. La deuxième édition, ce samedi 30 novembre du Forum pour des vacances adaptées à tous les types de handicap, se tiendra à la salle des fêtes de Saint-Porcher à partir de 10h jusqu'à 12h30 autour de parents bénévoles qui ont instruit des dossiers d'une petite dizaine d'organismes de vacances qui proposeront leur catalogue de séjours adaptés.
Les agriculteurs souhaitant déployer un plan de gestion durable des haies bocagères sont invités à contractualiser avec l'agglomération du bocage bressuirais.
État des lieux qualitatif et quantitatif, planification des travaux d'entretien et de valorisation économique de la ressource bois à l'échelle de leur exploitation, feuille de route pour conduire les travaux de gestion et d'amélioration des haies déjà existantes, tout un panel de conseils que l'Aglo de B, associé à Bocage Pays Branché, se propose de prendre en charge en formalisant des engagements réciproques. Précision avec la vice-présidente de l'Aglo chargée du développement économique, Emmanuel Ménard, devant Jacqueline Pinon.
Les agriculteurs sont de plus en plus réceptifs. Ils voient bien que c'est important, notamment lorsque l'on est dans le domaine de l'élevage, que s'il n'y a pas de haies, eh bien voilà, c'est une activité qui s'en va. Donc c'est de mieux en mieux, mais ils n'ont pas forcément eu toutes les connaissances, les pratiques, l'idée, comme je vous le disais, de valoriser ensuite ce qu'ils font, parce que c'est du temps, bien évidemment, pour eux. Donc il faut qu'ils puissent y trouver un intérêt pour leur revenu ou autre. Donc voilà, on met ça en pratique avec eux, et j'espère que eux, comme le paysage, seront satisfaits de ce que tout ça va donner.
Positive attitude, disiez-vous, parce qu'il y a certains agriculteurs qui les dégradent volontairement.
Oui, et là, nous ne sommes plus du tout positifs, ça c'est sûr. Ils sont peu nombreux, mais ça se voit énormément lorsqu'ils font des dégâts, lorsqu'ils arrachent des haies. Nous avons quelques exemples sur le territoire. Donc, avec le président, nous avons rencontré Madame la préfète. Nous lui avons dit tout cela. C'est entre les mains de la DDT, ils ne vont pas laisser faire, ils ne veulent pas laisser faire, et nous non plus.
Chaque convention sera conclue pour une durée de 15 ans entre la communauté d'agglomération du Bocage Bressuirais et l'exploitant engagé dans ce plan de gestion durable des haies.
Un nouveau ciné-débat au fauteuil rouge demain soir.
Sur la base du film de Gilles Perret et François Ruffin, au boulot. Un film qui s'intéresse aux gens qui ont un travail aussi peu valorisé qu'indispensable pour la société. Armel Prieur a adoré et a voulu le faire partager avec la complicité du cinéma bressuret.
Si on le met en ciné-débat, c'est parce que c'est un film propice à réfléchir et discuter de ce qui est utile à la France et de la vision qu'apportent ses réalisateurs, Gilles Perret et François Ruffin. C'est un film étonnant, rigolo, mais en même temps émouvant par certains aspects, qui part d'un principe intéressant, c'est comment on peut montrer des gens qu'on voit jamais dans les films, dans la télévision, nulle part. Des auxiliaires de service, les aides ménagères, les gens qui travaillent dans des usines, un livreur de colis, mais surtout, ce qui est rigolo dans le film, c'est la façon de le présenter, c'est qu'ils ont demandé à une mondaine parisienne de venir voir ce que c'est que le métier. Et donc, ils demandent après à tous ces braves gens de la former à leur métier, de leur dire comment tu vas faire tes 80 livraisons dans la matinée ou comment tu vas faire la toilette des personnes de 90 ans.
Armel Prieur animera les échanges demain soir. Ce retraité actif, ancien haut fonctionnaire européen, poursuit son travail de militant pour le compte carbone.
Le mécanisme qu'on propose, qu'on appelle le compte carbone, c'est une dotation de monnaie carbone aux gens, égalitairement, pour qu'après on la réduise doucement sur 30 ans pour arriver à l'équilibre. Parce que avant 1850, l'humanité produisait autant de carbone que ce que pouvaient absorber les forêts et les océans. Et depuis l'ère industrielle, on a augmenté de plus en plus la production. Et actuellement, dans le monde, on produit 57 milliards de tonnes de ces gaz à effet de serre, alors que la nature ne peut en absorber que 20. Et donc, il faut qu'on passe de toute cette production, en gros, de 9 tonnes par personne et par an en France, à 2 tonnes. C'est ça l'objectif. Et avec un comptage et une dotation de monnaie carbone, on y arrive en 30 ans. 68% des Français sont en dessous de la moyenne, des 9000, et donc ils auront des excédents qu'ils pourront monnayer. Parce que les riches n'auront pas assez de 9000, et les très riches. Et donc il faudra leur accorder de pouvoir acheter des suppléments. Et moi je vois des gens très riches qui me disent, on sera content que notre argent y va au plus modeste et au plus sobre. Donc c'est faisable.
Armel Prieur qui pousse actuellement une loi d'étiquetage du carbone sur les produits. Il rencontre actuellement des parlementaires à ce sujet. Le parcours est encore long, mais l'idée fait son chemin. À suivre donc.
À toi, grâce à un ancien paroissien, le cas de tombe du ciel pour l'église de Rigné.
Après avoir connu d'importantes rénovations sur la toiture et la charpente il y a une vingtaine d'années, la petite église désaffectée de Rigné-Mauzet à Thouars a bordé le troisième millénaire en espérant davantage, car son intérieur était en souffrance. Et c'est un paroissien qui a apporté une solution inattendue et quasiment miraculeuse, comme nous l'explique Sébastien Morin du service du patrimoine en Thouars, c'est au micro-colline de Dominique Hérault.
Ce monsieur a décidé de léguer une somme assez importante, un peu plus de 70 000 euros, pour la restauration intérieure de l'église. C'est un don qu'il a fait au diocèse de Poitiers, en ciblant la restauration de l'église et notamment la reprise du système des cloches, pour que les cloches de l'église sonnent à nouveau. Le chant des heures et également l'appel des paroissiens. La mairie de Thouars a reçu cette somme d'argent avec la volonté, bien sûr, de respecter ce legs. Et évidemment, des travaux ont pu être menés dans l'année essentiellement 2023. Depuis les travaux, les cloches sonnent à nouveau. Et puis surtout, la présentation intérieure de l'église est aujourd'hui tout à fait intéressante. Beaucoup d'éléments ont pu être mis en valeur.
Des niches, des ouvertures anciennes, une très jolie croisée d'ogives, ainsi qu'un mobilier non dépourvu d'intérêt. Une première visite guidée de cette église romane datant de 1450, dédicacée à Saint-Hilaire, est proposé au public gratuitement ce samedi 30 novembre à 14h30. Le nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver au 06 12 76 87 64. Vous aurez alors sans doute une pensée pour Michel Bichon, ce généreux donateur natif de Rigné, décédé à Mauléon il y a 4 ans, à l'âge de 84 ans. Pour les amateurs de petits patrimoines historiques, les élus Thouarsais ont bien fait d'accepter ce don. Reportage signé Dominique Hérault. La sélection du All-Star Game Ligue nationale de basket vient d'être publiée. On savait déjà que Fabrice Lefrançois, le coach de CB, était sélectionné. Il y aura aussi Bastien Vautier, l'intérieur de Cholet Basket, mais également André Robertson. personne qui a joué avec Cholet jusqu'au 5 novembre dernier, aujourd'hui dans les rangs de Villeurbanne. Il sera dans la sélection étrangère avec un certain TJ Campbell, bien connu à la Meilleraie, programmé le 29 décembre à l'Accor Arena de Paris. Ce sera le 38e All-Star Game de la Ligue. Le centre aquatique Cœur d'eau à Bressuire va débuter sa pause hivernale lundi prochain, le 2 décembre, jusqu'au dimanche 12 janvier inclus. Durant cette période, rendez-vous à Quadel Cerisé. La nouvelle saison de Cœur d'eau débutera le lundi 13 janvier à Cœur d'eau Bressuire.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Un mercredi nuageux et humide, Patrice, comme c'était prévu.
Le vent peut encore donner quelques rafales jusqu'à 40 km par heure, essentiellement sur la moitié nord des Deux-Sèvres ce soir, puis il se calmera la nuit prochaine. Demain, la journée restera nuageuse, une grande partie de la journée, avec un risque pluvieux en matinée. Il ne faudra a priori pas compter sur les éclaircies demain avant la fin de la journée. Les températures s'articuleront autour de 10 degrés au lever du jour, pour des maximales qui seront comprises entre 11 et 14.
Merci Patrice pour toute l'info près de chez vous, édition du soir. C'est tout d'ailleurs pour l'info près de chez vous aujourd'hui. Retour demain matin
à 7h02 avec Fabien Gazot. Très belle soirée avec Colline à Radio. Je vous retrouve demain à 18h pour le Colline Info Soir.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.